Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la production d'un numéro d'un magazine, et pas n'importe quel magazine, un magazine récent qui s'appelle Amusement, dont le slogan vous dira de quoi il s'agit, c'est « Video Games, interaction, style et inspiration ». Donc c'est un slogan inspirant, on va dire, focalisé sur les jeux vidéo, et je suis avec le rédacteur en chef de ce magazine, qui est aussi le directeur de la publication, il s'appelle Abdel Bounane. Salut Abdel.
Bonjour.
Donc, comme je l'ai dit, tu es rédacteur en chef d'Amusement, aussi directeur de la publication, et ça te prend sûrement beaucoup de temps.
Oui, ça prend énormément de temps.
Néanmoins, à côté, tu fais un petit peu de radio apparemment,
oui.
Sur France Culture.
Exact.
Dis-moi ce que c'est.
Alors, on est sur France Culture, on est sur la tranche 18-20h, et il s'agit de parler de nouveaux médias, de jeux vidéo, de nouveaux loisirs, de nouveaux loisirs numériques. Donc évidemment les jeux vidéo tiennent une part importante là-dessus. Donc en début de saison on faisait des chroniques, et maintenant on fait des interviews. On va monter des plateaux pour la deuxième partie de saison. Voilà, des plateaux autour de tout ce qui a trait autour des MMO. Là c'est un plateau qu'on a vraiment envie de faire. On a également peut-être aussi autour du jeu vidéo à la française. Et puis il y a des thèmes qui sont en train d'être cogités en ce moment et qui se trouveront à l'antenne dans quelques semaines.
Et les derniers sujets traités rapidement ?
Ah bah ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de chronique. Il y a eu un moment en janvier où on avait rien fait. On a traité de sport, de Fable, des jeux vidéo indépendants en flash. On a traité de musique, de blip musique. Enfin, c'est assez libre contrairement à l'image qu'on peut avoir de France Culture habituellement.
Quand tu dis on, ça veut dire qu'il y a une petite équipe pour faire ces chroniques.
Quand je dis oui, on est plusieurs, c'est pas une, ouais. C'est pas mon émission. Moi, j'interviens dans l'émission de Laurent Goumard qui a la tranche 19h15-20h. C'est le rendez-vous de Laurent Goumard, comme son nom l'indique. Et donc oui, on est une équipe. Il y a de la musique, il y a de la mode, il y a de l'art contemporain et il y a du jeu vidéo. Donc c'est assez nouveau et c'est intéressant d'intervenir dans une équipe de ce style-là, où le jeu vidéo n'est pas ghettoisé mais intégré au reste de la culture.
Dans ta signature, il y a aussi un lien, galerie.arcadeplaystation.com. Mais oui. Qu'est-ce donc ?
Alors ça, c'est une galerie que j'avais montée quand je travaillais chez PlayStation. Chez PlayStation, je m'occupais un petit peu de tout ce qui était relation avec des artistes, des créatifs, etc. Et j'avais monté cette galerie en ligne qui était une espèce de plateforme sur laquelle on sélectionnait des artistes, des photographes, des illustrateurs, etc., à créer autour de la marque PlayStation. Donc voilà, c'est encore en ligne, les gens peuvent encore le visiter. On a réuni une cinquantaine d'artistes et c'était un peu les prémices d'Amusement, dans le sens où je me suis rendu compte qu'il y avait toute une génération de créatifs qui étaient disponibles, disposés à créer autour du jeu vidéo. Et Amusement a confirmé ça après.
Et alors justement, Amusement, on peut déjà se renseigner sur amusement.fr. Mmh. D'ailleurs, on peut s'abonner.
Oui, oui.
Et c'est un magazine papier, donc on peut pas aller le lire directement sur le web, mais en tout cas, on peut s'abonner, oui. On le reçoit. Et c'est donc un objet physique.
Voilà.
Décris-le-moi un petit peu comment ça se présente.
C'est 200 pages assez lourdes, qui pèsent 800 grammes, avec 4 types de papier différents. Ça, c'est pour le contenant. Et le contenu, l'idée, c'était de proposer une alternative à la presse de vidéo classique. Par alternative, j'entends un contenu éditorial plutôt destiné aux adultes, avec des intervenants qui écrivent par exemple au New York Times, à Vanity Fair, en France plus proche de chez nous, aux Inrock, Technic Art, ou Elle, ou Jalouse, des choses. Donc ça va vraiment dans des secteurs assez variés. Et donc ça, c'est pour la partie éditoriale. Et puis pour la partie de direction artistique, l'idée, c'était aussi de réunir des créatifs qui d'habitude travaillent avec la presse d'images, donc mode, photographie, design, etc., qui eux, on propose depuis longtemps des beaux magazines, ce qu'on appelle de beaux magazines. Et voilà, c'était un peu approcher cette esthétique là et ces créatifs là pour le décliner dans l'univers du jeu, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un grand fossé entre la créativité du jeu vidéo, la créativité artistique, esthétique, la patte jeu vidéo, et ce que proposait la presse par ailleurs, le traitement de la presse habituellement, qu'elle soit grand public ou même spécialisée, il y avait vraiment un grand écart. Et moi, je voulais un peu d'une manière combler cet écart, en approchant des gens d'univers qui a priori n'avaient n'avait rien à voir avec les jeux, mais qui proposait une ambiance graphique évoluée, on va dire.
Et alors, justement, évoluer, notamment parce qu'il y a, d'après ce que j'ai remarqué, quatre principales parties. Premier niveau, boss, bonus, niveau caché, c'est un découpage du magazine.
Oui, voilà. Bah, l'idée c'est aussi de ne pas forcément se prendre au sérieux et de reprendre complètement les codes du jeu vidéo qui sont et de jouer avec, de s'en amuser, c'est le cas de le dire. Donc il y a quatre parties, et en même temps qui se tiennent. Quoi. Le magazine se tient, il n'y a pas de rubriquage réel. Il y a des rubriques qui apparaissent d'un numéro à l'autre, qui disparaissent. C'est assez flexible par rapport aux rubriques que tu évoques. Disons que elles sont plus là pour scinder et pour donner un esprit que pour réellement séparer en thématique réelle le magazine. C'est un peu un découpage artificiel parce que le magazine, la dynamique du magazine, elle repose sur des rubriques vraiment très différentes les unes des autres et qui n'ont pas forcément vocation à se regrouper.
Il y a quand même un lien avec l'aspect physique, puisque, par exemple, le niveau caché, c'est un papier particulier.
Non, c'est vrai, t'as raison. Le niveau caché, c'est à la fin. C'est un papier, effectivement, qui ressemble à du papier BD, granuleux, type à la Delcourt. Delcourt fait aussi du papier pas granuleux, mais j'ai du mal à décrire. C'est un papier un peu granuleux, un peu comme du papier journal épais, voilà. Effectivement, dans cette partie-là, il y a des travaux pratiques à découper, il y a des articles un peu théoriques. Donc c'est vraiment utiliser le papier pour le papier, c'est-à-dire pour le côté coloriage. Il y a des coloriages également, il y a des notes de musique, de niveau de jeu vidéo. Donc c'est vraiment passer à la base du papier et dire qu'est-ce qu'on peut proposer lié au jeu vidéo qui malgré tout emprunterait au média papier ce qu'il a de plus spécifique, c'est-à-dire son côté physique, touchable, découpable, coloriable, et voilà. Et
donc ça fait partie des idées de base de la création d'Amusement.
Non,
c'était l'idée d'avoir un objet justement
ça complètement, le fait d'avoir un véritable objet qu'on garderait, qu'on collectionnerait éventuellement et ça fait vraiment partie de l'inspiration de base. C'est pour ça qu'on a quatre types de papier différents, c'est pour ça que le grammage est assez élevé, et c'est pour ça qu'aussi il y a des portfolios qui peuvent faire une dizaine de pages. Portfolio photographique ou d'illustration qui font une dizaine de pages. Alors, cette idée, elle vient pas de nulle part. C'est de se dire, à l'heure d'Internet, qu'est-ce qu'on propose de différent en papier ? Est-ce qu'on propose de l'information jetable, comme c'est le cas habituellement ? Est-ce que c'est précisément ce que propose Internet ? Ou est-ce qu'on propose quelque chose qu'on aura envie de garder, qui se rapprochera un peu plus du livre et qui prendra le papier exactement comme tu dis, pour ce qu'il propose de spécifique, et en l'occurrence, ce que le papier propose de spécifique, c'est le caractère objet qu'on peut attribuer à un magazine. C'est aussi le fait de créer une ambiance particulière. C'est pour ça qu'on a été voir des photographes et des illustrateurs et qu'on a une approche dont on dit qu'elle est plus créative ou artistique que informative. On n'est pas là pour donner de l'information, puisque l'information elle est disponible partout sur Internet, mais plus pour excentrer un petit peu le débat, proposer une ambiance particulière, et voilà. Et c'est ça le défi qu'on s'est posé, et c'est aussi c'est lié avec le fait qu'on a choisi le papier, quoi, qui est vraiment un support. Il n'y a pas meilleur support pour exposer des travaux artistiques que le papier, quoi. Sur Internet, l'expérience est complètement différente, quoi.
Et j'étais étonné par le prix d'ailleurs, c'est un gros objet, lourd, grand, et ça ne coûte que
5 euros.
5 euros.
Voilà, alors les sources de revenus viennent évidemment, certains magazines vivent du revenu des ventes, nous c'est assez différent, on essaie de développer des publicités spécifiques pour les magazines. On en a fait par exemple pour PlayStation, Sega, Electronic Arts, on va en faire pour des marques d'électronique à l'avenir. On va faire une belle opération avec une grande marque de sportswear pour le numéro 4 également. Donc voilà, l'idée c'est aussi de la même manière que le contenu avait besoin d'être réenvisagé à l'heure d'Internet, c'est aussi réenvisager la publicité à l'heure d'Internet sur le papier et pas proposer simplement des pages de publicité, parce que les annonceurs s'en détache, à moins que vous appeliez Télé 7 jours et que vous soyez massif. Quand on est un magazine indépendant et petit, il vaut mieux proposer des idées. C'est ce qu'on essaie de développer avec des marques. Voilà.
Et est-ce qu'on trouve Amusement dans tous les kiosques ?
Non, on trouve pas Amusement dans tous les kiosques. On peut aller sur amusement.fr, regarder dans la rubrique Amusement près de chez vous. Et là, on trouve, on est dans toutes les grandes villes. Même quand je dis grandes, c'est grandes et moyennes villes. Et on est et donc à partir de ce moteur, on arrive à trouver facilement un numéro près de chez soi.
Alors, dedans, on trouve des articles, des interviews, des photos, des jeux, des partitions, j'ai vu dans le numéro 2 une fiction.
Oui.
Est-ce que j'en ai oublié ?
Ça, c'est le dernier cahier.
Numéro 2, ça. J'ai pas encore eu le numéro 3.
Oui, alors, c'est difficile toujours de dire un petit peu comment définir le contenu du magazine, parce que les contenus et les rubriques, comme je t'ai dit tout à l'heure, sont complètement différentes d'un numéro à l'autre. Donc, si je reprends le numéro 2 et si je prends le numéro 3, par exemple, tu auras un article de Nicolas Santolaria de Technicart qui nous fait une espèce de métaphore filée entre le monde de Groland et un MMO. Il nous dit en fait que Groland, le festival de Groland annuel, c'est un peu un MMO avec ses codes, ses personnages, ses castes, et que c'est complètement surréaliste parce que pendant 3 jours, je crois que c'est un festival qui dure 3 jours, il se passe un peu tout et n'importe quoi comme il pourrait se passer dans un jeu vidéo, quoi. Donc ça, c'est dans la rubrique virtuelle réalité. Il y a quoi d'autre? Il y a pas mal de portfolios. Il y a de la mode. Dans le numéro 3, il y a une série inspirée de Pac-Man. Il y a des interviews décalées de Lara Croft. Dans le numéro 3, il y a une interview de l'assistant de l'inventeur de la première console de jeu qui s'appelle Ralph Baer. Cette interview, elle est assez représentative de ce qu'on essaie de faire dans Amusement, c'est-à-dire décaler et excentrer le propos éditorial, toujours regarder ce qui se passe soit derrière, soit à côté, et demander à l'assistant de l'inventeur de la première console de jeu vidéo, c'est une manière d'excentrer le regard qu'on peut porter sur l'histoire du jeu vidéo, et pas simplement demander à l'inventeur du jeu vidéo, bien que ça aurait pu être très très intéressant, mais là, plutôt demander à l'assistant de porter son regard personnel sur sa relation qui a duré 15 ans, qui dure encore d'ailleurs avec Ralph Baer, et avoir un point de vue tiers, quoi. Voilà, c'est très représentatif de ce qu'on essaie de faire dans le magazine.
Alors toi, Abdel, t'es, comme on disait, rédacteur en chef et directeur de la publication. On va voir précisément à quoi ça correspond. Mais évidemment, t'es pas tout seul dans l'aventure. Il y a par exemple un cofondateur qui est aussi conseiller éditorial.
Oui, exactement. Ça, c'est Jean-Baptiste Souffron. Il a fait beaucoup de choses et il est très actif. Il est directeur du think tank de Cap Digital, qui est un fonds de compétitivité de la région Île-de-France sur les nouvelles technologies. Il est avocat. Il participe également à la même émission que moi sur France Culture. Il s'est occupé de beaucoup de sujets liés au Creative Commons, à l'open source. Il a été notamment responsable du département juridique de Wikipédia de 2001 à 2006, à un niveau mondial. Donc voilà, il s'occupe beaucoup de choses dans des domaines très variés liés aux nouvelles technologies.
Il y a une directrice artistique.
Oui, Alice Litchard, elle s'occupe effectivement de tout ce qui est maquette, et elle intervient beaucoup sur tout ce qui est série photo, et elle travaille avec l'agence de graphisme M&M, qui est sinon la plus réputée en France, au moins une des trois plus réputées en France et en Europe, qui travaille habituellement avec Yves Saint Laurent, Balenciaga, qui fait la dernière jaquette du dernier album de Björk, par exemple, des choses comme ça, et elle travaille avec eux depuis plusieurs années, voilà.
Et à côté de ça, on trouve des rédacteurs, des photographes, des illustrateurs, des gens qui sont impliqués dans la mode, comment on les appelle
Des gens qui sont impliqués dans la mode, des modeux, on va dire, des modasses quand on n'est pas très gentil avec elles. Mais...
Je disais ça parce que dans l'ours, c'est 4 rubriques à part, rédacteur, photographe, illustrateur et mode.
Ah pardon, t'as raison, c'est vrai. Oui, alors ouais, effectivement, alors, dans l'ours, on a séparé. Dans l'ours, on a séparé, c'est les stylistes, tout à fait. Ouais, okay. Voilà, ouais, exactement.
En plus, un secrétaire de rédaction, on va voir son rôle, des assistants de rédaction, je vois aussi un design assistant et une traductrice. Voilà, ça fait beaucoup de monde finalement.
Oui, mais alors tout fonctionne de manière très... dématérialisé, rien. Tu vois, on est dans la rédaction, une rédaction traditionnelle, on s'imagine à ce qu'il y ait plein de journalistes qui tapent sur des ordi, et là il y a personne. tout ça pourquoi?
Si, il y a un chat.
voilà. Mais il participe pas au magazine, pas encore. Il y a personne parce que en fait c'est un magazine qui fonctionne beaucoup de manière, comme je disais, dématérialisée. Moi, les intervenants sont à Paris ou à New York ou à Tokyo et ils m'envoient leurs textes ou leurs photos ou leurs images et du coup il y a pas forcément besoin de créer pour moi en 2009 on n'a pas besoin d'avoir une rédaction où les gens se réunissent pour créer un magazine quoi. C'est pas en tout cas pas un magazine comme Amusement qui en plus vit un rythme de vie qui est trimestriel donc on peut se prendre le luxe de ne pas forcément se réunir et de faire des conférences de rédaction tous les jours ou toutes les semaines pour élaborer le magazine quoi. On est moins dans l'urgence, on est plus dans voilà, je peux prendre le temps de rencontrer plusieurs photographes avant de faire une série photo et choisir le bon.
On va passer à la phase de préparation. Je découpe souvent en trois parties: préparation, réalisation, publication. A priori, là, pour un magazine, ça peut s'appliquer, c'est-à-dire que avant que le numéro soit réalisé, que du contenu soit produit pour lui, on va le penser d'abord. Souvent, ça commence par une conférence de rédaction. Là, on vient de voir qu'il n'y a pas vraiment de rédaction localisée à un endroit en particulier. Donc, comment ça se passe ?
Ça se passe. Enfin, c'est du. On crée le contenu et on propose le contenu de façon bilatérale, quoi. En gros, les journalistes me demandent, me proposent des sujets et moi, j'agence le tout, quoi. Je catalyse le tout.
T'as un conducteur quelque part que tu remplis
voilà,
au fur et à mesure.
Exactement. Ouais, c'est un chemin de fer qu'on remplit et qui évolue beaucoup, peut-être trop, mais c'est bien, ça me permet d'avoir beaucoup de flexibilité puisque je suis un peu le seul à tout catalyser. Donc quand il y a des changements à faire, je les fais moi et j'ai besoin d'en rendre compte à personne. Il y a une hiérarchie qui est à peu près inexistante, quoi. C'est moi qui parle aux journalistes, il n'y a pas de chef de rubrique ni quoi que ce soit. Donc du coup il n'y a pas 12 000 retours, c'est un journaliste me parle, je choisis, ça se fait, ça se fait pas, et ensuite voilà, on avance. Donc ce qui permet une flexibilité qui est loin d'être le cas de la plupart des magazines. En fait, j'ai une flexibilité pratiquement d'un magazine internet sans l'avantage de la diffusion instantanée, quoi. Mais sinon, dans la création, puisqu'on en est à ce stade, en tout cas, j'ai cette fluidité-là.
Et le chemin de fer, tu nous dis en deux mots comment tu le fais, ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas.
C'est très simplement, c'est une page InDesign, du logiciel InDesign. Ça pourrait être des pages Word, hein, y a pas de... Mais qui contiennent le nombre de pages du magazine. C'est un document, pardon, qui contient le nombre de pages du magazine. Sur chaque page, on inscrit ce qu'il doit y avoir a priori sur la page en question quand elle sera imprimée. C'est une manière de visualiser un petit peu le magazine, quoi.
Au moment où tu penses à faire tel ou tel sujet, tu dois commander des illustrations, des photos ?
Oui, alors le gros défaut du numéro 1, c'était que je pensais plus au sujet et moins aux illustrations. Maintenant, je les pense de façon équitable, et ce qui a permis au magazine d'évoluer beaucoup en termes de direction artistique et de visuel et de flash, quoi, de flash pour les lecteurs. C'est beaucoup plus flashant quand on le regarde que le numéro 1 qui était beaucoup plus texté et donc je pense vraiment les deux maintenant, et c'est une grosse évolution par rapport au premier numéro.
Sur la base du chemin de fer, tu te fixes un planning à respecter
Oui, on est obligé d'avoir un planning qui est effectivement moins rigide que celui d'un magazine classique mensuel, mais puisqu'on est trimestriel, donc on a peut-être un peu plus de flexibilité et de porte coulissante. Mais voilà, oui, effectivement, on a un planning. Oui.
Alors la réalisation, forcément, il faut écrire, il faut prendre les photos, il faut illustrer. Comment est-ce que tu gères ça à distance ?
L'écriture, c'est très simple, c'est des textes qu'on édite. Les photos, là pour le coup, il faut être présent. Ça se passe dans des lieux divers et variés, éventuellement un studio s'il faut, sinon un hôtel, des lieux dont on décide de la pertinence par rapport au sujet qu'on aborde. Et voilà, donc les photos, par contre, il faut être présent. C'est la dose de physique qu'on ne peut pas échapper, à laquelle on ne peut pas échapper.
Qui fait les premières lectures? C'est toi? C'est le secrétaire de rédaction?
C'est moi qui vérifie si ça correspond à ce que j'ai commandé ou ce dont on avait convenu avec le journaliste. Et ensuite, c'est le secrétaire de rédaction. Et ensuite, ça passe à la maquette.
Est-ce que parfois, il faut revoir un texte
Oui. Comme le format est nouveau et que j'essaye d'avoir, tout comme je te disais au début d'interview, une approche un peu excentrée sur le sujet, il y a des réflexes de journaliste que j'essaye d'éviter.
Par exemple
Par exemple, une approche un peu trop descriptive du sujet. J'aime bien quand on se lâche un peu dans le texte, et quand on a une approche un peu plus personnelle, subjective, ça me plaît. Je suis pas forcément pour les textes très académiques, de la même manière que je suis obligé d'enlever des réflexes journalistiques, je suis obligé d'enlever des réflexes de certains professeurs, par exemple, qui écrivent dans le magazine, ou des chercheurs qui, eux, sont pas capables d'écrire des choses simples, même quand elles le sont. Donc il faut débroussailler leurs réflexes, leur circonvolution à laquelle ils sont habitués, éventuellement dans leur sujet de thèse ou dans leurs articles, les articles qu'ils peuvent écrire dans certaines revues sociaux, psycho, etc. Et ça, il faut vraiment leur enlever des réflexes pour que ça colle à l'esprit du magazine. Voilà.
Et t'as pas une petite charte que tu communiques à l'avance?
C'est une charte que pour les nouveaux, effectivement, si pour les nouveaux intervenants, je leur communique un petit document. Très cool. Ouais.
Il doit falloir peut-être parfois couper aussi des textes qui rentrent pas dans la maquette.
Ça arrive. C'est assez rare, mais ça arrive. Oui. Ouais. Bien sûr.
Quand tu valides article après article, portfolio après portfolio, tu fais une validation globale
pas,
à la
non,
fin.
Non, on ne valide pas. Comme je te disais, la chance qu'on a, c'est que je suis assez réactif. Il n'y a pas de plein de niveaux hiérarchiques qui nous empêcherait de répondre rapidement aux gens. Donc non, moi je valide vraiment au cours de l'eau.
Et la couverture, c'est pareil, un petit peu n'importe quand ou à la fin?
On réfléchit à la couverture dès le début et on la produit souvent à la fin, une fois qu'on a bien réfléchi. Ouais. Mmh. Ça, c'est un réflexe qu'on a pris pour le numéro 3. Pour le numéro 2 et le numéro 1, ça s'est fait vraiment de façon un peu in extremis, quoi. Donc maintenant, on est réfléchi au début et on les fait à la fin, mais on y réfléchit au début, quoi.
Est-ce qu'il y a des moments finalement où vous réunissez un petit peu physiquement ou même pas du tout?
Si, avec les.
Pour les photos par exemple.
Oui, mais voilà, pour les photos, mais certains intervenants, je les rencontre également, oui, bien sûr. Mais pas tous.
L'aspect complètement décentralisé pose peut-être parfois des problèmes en termes d'échange de données, d'échange d'informations, de communication.
Non. Entre quand on a un compte Gmail et un serveur FTP, en général, on se démerde bien, ça va. Et comme les gens avec qui on travaille sont habitués aux techniques de l'information, c'est vraiment le dernier souci, c'est vraiment la transmission d'informations, pour le coup.
C'est fluide.
Oui.
Par contre, peut-être qu'il y a des soucis, alors on va passer au niveau de la publication, peut-être des soucis au niveau des droits.
On utilise des images libres de droit qui sont transmises par les artistes avec leur autorisation. Les photographes avec qui on le fait, évidemment, nous donnent leur accord. On n'a pas de soucis à ce niveau-là. On contacte chacune des personnes pour reproduire leurs œuvres.
Et à un moment, finalement, tout est prêt. Tu peux exporter en PDF, c'est ça?
Voilà, exactement.
Et donc ça, c'est la maquettiste qui le fait?
Oui, avec la responsable de production. Mmh. Et c'est toujours délicat parce que c'est à ce moment-là que c'est gravé. Et forcément, on a toujours soit une coquille, soit un changement, soit un chapeau qui n'est pas suffisamment percutant. Et voilà, comme comme il faut malgré tout au bout d'un moment finir ce qu'on a commencé et l'envoyer chez l'imprimeur. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu on se dit qu'on pourrait faire mieux, mais voilà, au bout d'un moment il faut fermer les rideaux et voilà, et envoyer à l'imprimeur.
Vous faites des bons à tirer?
Oui, pour certaines pages, pas pour toutes, pour celles sur lesquelles on se pose des questions sur la façon dont ça va rendre une fois imprimé.
Donc t'expliques un peu la démarche du bon à tirer.
C'est sortir des feuilles, des papiers, des feuilles chez un imprimeur professionnel pour ensuite que l'imprimeur industriel, celui qui va imprimer notre magazine, puisse se fier aux couleurs qui ont été rendues via le premier imprimeur pour coller au mieux à la chromie et à l'ensemble des choses qui font que l'image est belle, quoi, et correspond à la vision de l'artiste également. Ouais.
Et enfin, donc une fois que tout est bon, l'impression peut avoir lieu. Donc c'est la fabrication du magazine en lui-même, fabrication de l'objet. Par rapport à l'aspect justement original, il n'y a pas eu de demande un petit peu compliquée à mettre en œuvre ?
On a pris du temps, on a mis le temps de choisir l'imprimeur qui convenait le mieux, et on a choisi celui avec qui on travaille depuis numéro 1 et qui fait pas mal de beaux magazines également, qui travaille sur des livres aussi, qui a cette culture du livre que n'ont pas forcément tous les imprimeurs. Et évidemment, pour un magazine comme Amusement, c'est pertinent de travailler avec quelqu'un qui travaille dans le livre.
Et qui diffuse ensuite ?
Ensuite, c'est les NMPP, un des deux distributeurs français. Il y a les MLP et les NMPP. Nous, on travaille avec les NMPP qui diffusent auprès des librairies, des kiosques, etc.
Il y a un moyen de retour pour les lecteurs ? Est-ce que tu reçois un courrier des lecteurs ?
Mon email qu'il y a sur le site internet du MAG, ça tombe dans ma boîte aux lettres. Et je reçois beaucoup de messages de compliments. De lecteurs qui me disent que la formule est rafraîchissante, qu'ils attendaient beaucoup un magazine comme ça, donc ça me fait très plaisir. On n'a pas de courrier des lecteurs parce que ça, j'ai pas envie de mettre de courrier des lecteurs
dans
Amusement maintenant, mais en tout cas ça me fait plaisir quand j'en reçois.
Là en ce moment en kiosque on trouve le numéro 3. Qu'est-ce que tu nous promets dans le numéro 4?
Alors dans le numéro 4, on va faire une avant-première, une première mondiale. On va être le premier magazine RFID, donc le premier magazine de l'ère de l'Internet des objets, qui va renvoyer, si vous avez un lecteur RFID, ce qui va être le cas dans quelques années, mais en tout cas voilà, pour les gens qui ont un lecteur RFID, on expose, c'est un prétexte.
Il y a le miroir exposer, de violet.
Le miroir de violet par exemple. Ouais. On expose un peu. L'idée c'est quand même un prétexte pour exposer ce que va représenter l'Internet des objets dans les années à venir, c'est-à-dire un monde dans lequel les objets qui nous entourent seront doués, sinon d'intelligence, au moins de mémoire. Et donc voilà, le Amusement, le prochain, renverra pour les possesseurs du magazine vers un jeu vidéo qui sera exclusivement accessible par les possesseurs du magazine. Et c'est une opération qu'on monte avec un grand fabricant de sportswear qui fabrique également, à notre demande, enfin en collaboration avec nous, 5 paires de baskets qui renverront également chacune d'entre elles vers du contenu exclusivement pour le possesseur de la basket.
Donc, c'est pas à la radio ni à la télé, donc tu peux citer la marque.
Oui, je peux. C'est vrai, c'est un réflexe débile, mais c'est Nike. Ouais.
Et comment on fait si on n'a pas de lecteur RFID pour jouer ?
Pour jouer aux jeux vidéo, le concept c'est quand même de dire de lier un objet pour exposer concrètement le concept d'Internet des objets, c'est de lier un objet à une forme d'exclusivité pour les possesseurs de l'objet. Donc si on n'a pas acheté le magazine, on peut pas jouer aux jeux vidéo. Donc,
oui, mais si on n'a pas le lecteur RFID.
Ah, si on n'a pas le lecteur RFID, et ben on peut pas jouer aux jeux vidéo.
Il n'y a pas un code à taper quelque part
Non, on a vraiment décidé de jouer à fond la carte d'Internet des objets. Il faut avoir un lecteur RFID.
D'accord, donc dans les sponsors, il y a aussi Violet.
C'est pas un sponsor, c'est un partenaire.
D'accord, quand même.
Ouais.
Alors si ça te dit, j'ai 5 questions.
Ouais.
Petit questionnaire, rendez-vous création. Ce que tu as appris à l'école et qui te sert le plus?
Oui, moi j'ai beaucoup appris avec un professeur de français c'était un professeur à l'ancienne, mais dans un collège de banlieue, et c'était très difficile justement de quand on est dans ce genre d'environnement, de rentrer dans les détails de la langue française quand la moitié de la classe ne vous écoute pas. Mais ce qui était impressionnant chez lui, c'est qu'il ne lâchait pas le morceau. Et on entrait dans des subtilités. Par exemple, on apprenait tous les types d'images possibles et imaginables. Et quand je dis les images, c'est voilà, les métaphores, images, etc. Mmh. Et on rentrait vraiment dans les détails, les subtilités précises, grammaticales de la langue française. Et je pense qu'on avait le niveau d'un excellent professeur dans un excellent lycée parisien, alors qu'on était en banlieue et que les conditions étaient difficiles. Et j'ai beaucoup appris avec ce professeur-là. Voilà. Et sinon, pour être plus concret, ce qui m'a beaucoup appris, ce que j'ai appris beaucoup à l'école, c'était en droit, mais pas le fond, c'est simplement la forme. Étant donné que j'étais toujours en retard, je faisais mes commentaires d'arrêt toujours à la dernière minute. Et il s'agissait, quand on fait un commentaire d'arrêt ou une dissertation, de créer un petit peu artificiellement du contenu en agençant les données qui nous sont, en agençant l'état des questions qu'on a pu faire de manière artificielle pour donner l'impression d'une cohérence pour le professeur et pour le correcteur. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est essayer d'angler au maximum sa dissertation et ses différentes parties et sous-parties pour que le correcteur ait l'impression de se dire « Ah mais oui, il va quelque part ». Et même si on a été très feignant et qu'on n'a pas du tout fait de recherche pendant la semaine qui précédait. Donc voilà, cet exercice-là, je l'ai répété pendant 2-3 ans puisque j'étais pas très assidu en cours, même si j'ai fini par avoir mes diplômes. Et ça m'a beaucoup servi pour le magazine parce que magazine, c'est créer, c'est agencer des données pour créer une ambiance. Et c'est exactement le même exercice, sauf que c'est pas dans les mêmes domaines. Et c'est ce qui, voilà, et ne pas avoir été assidu en cours de droit, ça m'a beaucoup aidé à créer ce magazine. Voilà.
Tu l'as créé quand d'ailleurs? L'année, c'est
2008, mai 2008.
Ce que tu as appris avec l'expérience qui te sert le plus aujourd'hui?
C'est anticiper. Je lance beaucoup de choses dans des domaines assez différents parallèlement au magazine. Il va y avoir peut-être un jeu vidéo sur iPhone. On va essayer également de monter des opérations autour du magazine dans des lieux physiques. Il va y avoir la version internet qui va être très ambitieuse également, qui sort cette année. Donc je lance beaucoup de projets. Oui, mais je peux pas encore en parler. Mais voilà, c'est anticiper pour pas se retrouver au dépourvu. Et comme je me retrouve toujours au dépourvu, je me dis que j'anticipe pas encore assez.
Ce qui a le plus changé entre le numéro 1 et le numéro 3?
Ouais, c'est clairement l'aspect visuel. On s'est rendu compte que ce qui nous différenciait encore plus d'un magazine de jeux vidéo classique, c'était les séries visuelles, photographiques, illustratives. Et on insiste beaucoup plus sur cet aspect-là. Parce que ça va vraiment marquer la différence d'Amusement par rapport à un magazine de jeux vidéo classique. Pour vous donner une idée, Jean-Yves Lemoyne, qui a été nommé par ailleurs meilleur photographe de publicité par CBNews en 2008, a participé au numéro 3. Et une de ses séries qui s'appelle Pixel a énormément buzzé, Pixel avec 3X, a énormément buzzé il y a 2 semaines sur internet. On l'a vu sur tous les blogs créatifs et on en a vraiment vraiment entendu parler, et je me rends compte que voilà, c'est ça qui fera parler d'Amusement, quoi. C'est ces séries décalées, très retouchées, et qui parlent à la culture des joueurs, hein.
Donc ça, c'est un changement qui est en cours. Est-ce qu'il y a d'autres changements dans ta démarche que tu prévois pour l'avenir?
Oui, j'ai envie de parler plus d'art numérique, de design interactif, d'architecture futuriste et de gadgets. C'est-à-dire étendre le jeu vidéo, qui est une accroche forte, à des sujets plus on va dire, liés à l'interactivité aujourd'hui et la culture nerd.
Si un débutant, un jeune qui sort tout juste de l'école et qui te dit « moi aussi j'aimerais créer mon magazine », qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour commencer ?
Je dirais de bien s'entourer et de ne pas se lancer tout seul, parce que c'est moi, tu m'interviews maintenant, mais c'est un magazine qui est créé par entre 30 et 40 intervenants à chaque numéro, et c'est monter une équipe, ça se monte vraiment pas du jour au lendemain. Donc c'est peut-être le conseil que je lui donnerais.
Merci Abdel.
Oui,